Bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois te remercier, Jörg, parce que le travail que tu m'as donné est un travail un peu difficile. Et en outre, j'arrive à un mauvais moment, disons, du colloque. Mais bon, je vais essayer de faire le mieux possible. Mes remerciements quand même pour ton invitation. La convivialité du colloque, vous l'avez tous remarqué. Le profit en tout cas personnel, je crois que l'une des caractéristiques que l'on peut voir du colloque de l'extérieur, c'est qu'il y a un foisonnement d'expériences. Je reviendrai sur le terme d'expérience tout à l'heure lorsque je parlerai de conception de la recherche, parce qu'en recherche, l'expérience a un statut tout à fait particulier, et certains parlent par exemple de l'expérientiation et non pas de l'expérimentation dans la conception de la recherche en didactique des langues. On vous a parlé déjà aussi beaucoup de recherche-action. Donc à la fin de mon intervention, je vous présenterai un petit modèle d'appréhension globale des différentes manières de se situer dans le champ de la recherche. Entre le laboratoire de phonétique expérimentale, par exemple, et puis ce que expérience ou l'expérience que fait un enseignant dans sa classe, on voit bien que du point de vue épistémologique, du point de vue des exigences et des attentes de la recherche, on n'est pas tout à fait sur les mêmes terrains. Voilà, foisonnement d'expérience, donc je reviendrai sur le terme d'expérience. Le foisonnement, c'est suivant les attentes des participants, suivant sans doute leur profil psychologique aussi, ce foisonnement peut être ressenti comme une richesse, mais il peut être aussi ressenti comme une dispersion. Ça, c'est une loi générale de la complexité. On a parlé beaucoup de simplexité. Ça fait, moi, des années que je travaille sur la didactique complexe. Donc, Edgar Morin, en particulier, est l'une de mes références, mais pas seulement. Le concept de simplexité de Berthaus, bien entendu, m'intéresse. Je me suis précipité sur son bouquin en 2009, dès qu'il est paru. Une des lois générales de la complexité, c'est que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Ce qu'on gagne en richesse, on le perd en cohérence. Une petite pensée là-dessus par rapport à la recherche sur laquelle je vais terminer aussi, ça vaut aussi pour la recherche. Il y a une très belle pensée de Claude Lefort, que vous connaissez peut-être, qui dit, je ne me rappelle plus où, mais je peux retrouver ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Lorsque nous cherchons, lorsque devant nous, nous ouvrons de nouvelles portes, il faut toujours savoir, ne jamais oublier que derrière nous, d'autres portes se ferment. Et c'est une très jolie pensée. Ce qui explique qu'en fait, la recherche, le but de la recherche n'est pas de trouver, ça fait toujours rigoler en dehors des chercheurs, le but de la recherche, en tout cas en didactique des langues, c'est la recherche elle-même. Le but du questionnement, c'est le processus même du questionnement, et non pas le produit, c'est-à-dire les réponses que l'on peut trouver, parce que ces réponses seront toujours des réponses locales, provisoires, dépendantes énormément de l'environnement, de la personnalité de l'enseignant, de son groupe à ce moment-là. Donc il n'y a pas de loi générale en didactique des langues, il n'y a que des règles contextuelles. À toute question méthodologique, comment est-ce que l'on doit faire ceci, comment est-ce qu'on doit faire cela, il n'y a qu'une seule réponse didactique, ça dépend. Le problème, c'est après de construire la logique contextuelle. On parle de compétences, je suis en train de chercher le mot, compétences conditionnelles, quelque chose comme ça, non ? Il y a la compétence en termes de connaissances, de savoir-faire et de savoir à quel moment on fait ou on ne fait pas, ou à quel moment on mobilise ou on ne mobilise pas la connaissance. Oui. Alors, donc, je pince rapidement sur ce que je voulais dire de la simplexité. Il y a, pour vous montrer ce qui m'intéressait, moi, par amitié, je me suis laissé embringuer dans un comité scientifique d'un institut de neurodidactique, parce que le concept existe. Moi, j'ai énormément de réticence par rapport à ça, parce que pour l'instant, je ne vois pas d'interface entre les découvertes des neurosciences et véritablement les pratiques de classe. Qu'est-ce que ça donne directement comme implication ? Ça ne délégitime pas absolument les recherches en neurosciences, mais disons que moi, je suis dans une position d'attente. Qu'est-ce que ça va donner ? S'ils m'ont fait rentrer dans cet institut, c'est parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent un petit peu percer du côté des enseignants, c'est pas du côté des activités cérébrales qu'il faut partir, mais du côté des activités didactiques. Et à partir des activités didactiques, voire analyser du point de vue cognitif les activités didactiques. Et non pas uniquement faire du travail en laboratoire avec le casque et les trucs sur la tête. Un exemple, le concept d'inhibition, par exemple, est un concept central, tu en as parlé encore tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne en didactique, ça? Ben, on l'a vu pendant le colloque. On ne peut pas à la fois évaluer le pragmatique et le linguistique. Si vous évaluez le linguistique, il faut inhiber le réflexe d'évaluation pragmatique. Si vous voulez évaluer l'efficacité de la communication, le pragmatique, il faut inhiber votre réflexe de correction linguistique. Il n'est pas possible de faire les deux choses à la fois. C'est la même chose que vous allez faire lorsque, pour la première fois, un étudiant prend la parole en faisant énormément de fautes. Vous allez inhiber votre dispositif de correction phonétique ou grammaticale. Et vous allez vous concentrer uniquement sur ce qu'il dit, et même le fait que pour la première fois, il a pris la parole. C'est peut-être même pas ce qu'il dit qui va être important. Vous allez inhiber le contenu et vous concentrer uniquement sur le fait que pour la première fois, eh bien, il s'est impliqué dans les échanges en classe. Okay, voilà. La didactique des langues est une discipline fondamentalement complexe, tout simplement parce que son objet, c'est le processus d'enseignement-apprentissage d'une langue-culture. Et donc, c'est extrêmement complexe d'enseigner et d'apprendre, et pourtant, on constate, hein, vous avez vu, ça enseigne d'un côté et ça apprend de l'autre. Donc il y a bien un traitement de la complexité particulier à la didactique des langues. Voilà, mais moi je passe rapidement là-dessus. Ce que je voulais ici, essayer de faire une sorte de... pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans ce foisonnement des propositions, des interventions qui ont été faites, essayer de comprendre, d'appréhender ce foisonnement, cette complexité justement, en termes de grandes oppositions. En didactique des langues, je me suis arrêté à 7 parce que c'est mon nombre fétiche, avec 3. Oh, c'est très judéo-chrétien tout ça. Et ça m'est arrivé parfois de me bloquer sur un article parce que j'avais pas le troisième chapitre, la troisième partie, et d'un seul coup, révélation pendant la nuit, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait une troisième partie? Et puis ça va mieux, on termine l'article tout de suite. Voilà. Donc, je passe en revue très rapidement. Langue culture, on est des professeurs à la fois de langue et de culture. Il y a une évolution depuis déjà quelques décennies, qui était déjà, que l'on a vu avec l'approche communicative, puisque dans l'approche communicative, dans les composantes de la compétence de communication, il y avait la composante socioculturelle déjà. Le discours de dire, à partir d'un certain niveau de compétence linguistique, on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas une compétence culturelle, pour justement adapter sociolinguistiquement le discours à la personne, à la culture, etc. Okay ? Et puis, deuxième remarque par rapport à ce positionnement sur langue-culture, vous avez historiquement l'approche communicative, c'est accouplé, si vous me permettez l'expression, c'est accouplé avec l'approche interculturelle. En France, en tout cas, on ne fait pas, il y a une synchronie entre approche communicative et approche interculturelle. J'ai montré déjà dans plusieurs articles que l'approche interculturelle est venue se mettre au service de l'approche communicative et qu'on retrouve dans l'approche culturelle les gènes, l'ADN de l'approche communicative. Et les gènes, l'ADN de l'approche communicative, ça vient du voyage touristique. Et en particulier, il y a le ponctuel, l'incoatif, le début de l'action, le perfectif, l'action se termine à la fin. En d'autres termes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est absolument hallucinant. Les dialogues communicatifs, c'était le cas des dialogues audiovisuels déjà au départ, ils commencent tous au début et ils terminent tous à la fin. Surprenant, n'est-il pas ? Oui, parce que dans la vie quotidienne, lorsque vous vivez, que vous travaillez en permanence avec des gens, eh bien c'est rarissime que vous commenciez véritablement un nouveau dialogue, et c'est rarissime aussi que vous terminiez réellement un nouveau dialogue. Terminer réellement un nouveau dialogue, c'est lorsque vous dites « bon, ça y est, c'est fini entre nous, on ne se parle plus ». Quelque part, gestuellement sans doute, il y a plein de manières de montrer que même si le thème de conversation est terminé, la conversation entre nous, le processus de conversation, n'est absolument pas clos définitivement. Voilà. Les dialogues audiovisuels et communicatifs, ce sont les mêmes personnes qui parlent de la même chose dans le même lieu pendant un temps déterminé. En d'autres termes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est de la tragédie grecque. À haute dose, un dialogue communicatif. Voilà, langue-culture. Ce que j'ai remarqué dans le colloque, vous l'aurez sans doute aussi remarqué, c'est que massivement, il me semble que la plupart des interventions se situaient du côté du pôle culturel par rapport au pôle langue. Je me demande si, dans quelques années, on ne va pas observer un retour du balancier, qu'on peut déjà observer, parce que quelque part, quand même, l'enseignement de la langue, ça fait partie du cœur du métier d'un enseignant, et c'est aussi à peu près la seule chose qu'il sache évaluer. Or, du point de vue déontologique, la capacité d'évaluer ce que l'on fait est un élément absolument important de la déontologie professionnelle. On peut faire des expériences très belles sur le multiculturalisme, sur plein de choses différentes. Quelque part, quand même, l'intégrer constamment dans notre pratique peut poser des problèmes déontologiques parce que, justement, on n'a pas cette capacité d'évaluation. Voilà, petit discours pour quand même ne pas oublier la langue, même si avec les étudiants que nous avons, sans doute l'une des exigences fondamentales, c'est de dire, bon, écoutez, ça suffit, vous avez appris l'anglais, vous avez appris l'espagnol, plus ou moins bien, maintenant, il ne s'agit plus essentiellement de l'apprendre, mais de l'utiliser. Et vous allez continuer à l'apprendre en utilisant. Vous l'utilisez, je me charge de la faire utiliser, hein, pour le vivre ensemble et surtout pour le travailler ensemble, et la classe de langue externalise la poursuite du processus d'apprentissage. Le temps, l'argent est trop rare dans un enseignement de langue dans une école supérieure pour qu'on passe encore du temps, ou trop de temps, sur des problèmes langagiers. Ça a l'air contradictoire avec ce que j'ai dit auparavant, mais ça ne l'est pas, parce que par derrière, il y a la question de l'hétéro ou de l'auto. Qui est-ce qui opère, en fait, de temps en temps, ce recentrement sur la langue? Je crois que le travail, la poursuite de l'apprentissage langagier, par définition, c'est un espace privilégié d'autonomie guidée, accompagnée par l'enseignant. Produit, processus, ça aussi, c'est une distinction, excusez-moi, très importante dans l'histoire de la didactique des langues, où pendant très longtemps on a été sur le produit, parce qu'on était sur la linguistique structurale, et on est passé, et puis on était sur la centration sur l'enseignement, et donc sur les contenus d'enseignement, vous voyez, linguistique structurale, contenu d'enseignement, on est orienté produit. Et vous savez, bon, c'est bien connu dans l'histoire de la didactique, le passage de ce qu'on appelait la centration sur l'enseignant, ou la centration sur la méthode dans le sens de matériel didactique, c'est-à-dire le produit qui est utilisé, le cours qui est utilisé pour faire classe. On est passé de la centration sur l'enseignant et sur la méthode à la centration sur l'apprenant. Alors je prends le cas de l'évaluation, par exemple, le problème de l'évaluation. Avant de commencer à parler d'évaluation, il faut demander à l'autre, mais tu parles d'évaluation produit ou d'évaluation processus? L'évaluation produit, c'est la certification. C'est l'évaluation sommative terminale. Mais on ne peut pas piloter son enseignement uniquement par rapport à l'évaluation sommative. Ça renvoie constamment chaque étudiant à la distance énorme qui lui manque par rapport à là où il devrait arriver. On ne peut pas démotiver de manière plus radicale et plus rapide un étudiant que de piloter son enseignement uniquement par rapport aux exigences terminales. Et tous les enseignants un peu expérimentés ont une évaluation orientée processus. L'évaluation qui est un instrument de motivation, d'accompagnement de l'apprentissage. On va tenir compte de la motivation des étudiants, on va tenir compte de leur progrès par exemple, tenir compte des progrès des élèves. Hein. C'est une manière absolument incontournable de gérer l'évaluation en termes de gestion du processus d'apprentissage. C'est pour ça que je parle d'évaluation processus. D'où la catastrophe lorsque une grande partie de l'enseignement se passe à préparer à une certification finale. Du point de vue didactique, c'est une monstruosité. C'est une monstruosité. Mais ça, les administratifs dans les écoles supérieures n'ont pas compris. Il y a beaucoup de choses dans le colloque que j'ai vu qui étaient orientées, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses qui étaient orientées processus. Je pense que là aussi, le colloque de l'UPLEGES est tout à fait dans son temps, dans le temps de l'évolution didactique. Regardez le thème de l'accompagnement qui a été présent dans énormément d'interventions. L'accompagnement, l'étayage de la part de l'enseignant. Ça me donne une transition directe pour le troisième point, qui est l'antagonisme, on va dire, ou la polarité entre, d'un côté, l'hétéro par rapport à l'apprentissage, c'est l'enseignant, ou ce sont les supports de l'enseignement, ce sont les objectifs d'enseignement, tout ce qui est extérieur à l'apprenant lui-même. Et puis, vous avez la polarité auto, et une nouvelle polarité qui vient se rajouter à la polarité auto, qui est la polarité du co. Regardez l'importance de collaboration, du concept de collaboration, et qui ne vient pas seulement du fait qu'on parlait de réseau dans ce colloque de l'UPLEGES. Hein. Le passage de l'auto au co, c'est quand même un passage de l'approche communicative à la perspective actionnelle. Ça, je reviendrai sur cette idée parce que je ne suis pas sûr que parmi tous les intervenants du colloque de l'UPLEGES, il y ait une perception très claire. Vous me permettez, on m'a dit que je pouvais faire... Ce n'est pas des critiques, ce sont des remarques, si vous voulez. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une perception très claire, si vous voulez, de la dernière évolution de la didactique des langues, où on est clairement passé de l'approche communicative, où on a ajouté à l'approche communicative une perspective dite actionnelle ou une approche actionnelle qui vient englober justement, l'une des caractéristiques de cette approche, c'est d'englober les orientations précédentes. Par exemple, pour travailler, l'enjeu c'est le travailler ensemble dans la longue durée avec des gens de langue et de culture entièrement ou partiellement différentes. Bon, pour travailler dans la longue durée avec des gens de culture et de langue différentes, il faut bien entendu communiquer avec eux, c'est clair, mais ça ne suffit pas de bien communiquer. Et en management d'entreprise, on s'est rendu compte depuis très longtemps qu'il ne suffit pas de bien communiquer pour bien travailler. Le thème maintenant dans les entreprises, c'est seulement la bonne information à la bonne personne, et vous pouvez compléter, au bon moment. C'est-à-dire réduire la communication strictement à ce qui est directement fonctionnel par rapport à ce que vous pensez que l'autre va faire de l'information, et c'est ce que l'autre va faire de l'information qu'il va recevoir. Hein. Il y a eu des études de sociologues en entreprise depuis très longtemps qui ont montré en fait que la communication, elle dépend en amont de ce que l'on pense que l'autre va faire avec l'information qu'on lui donne, et en aval, la communication elle-même est interprétée, utilisée uniquement par rapport à ce que l'on veut en faire. Vous passez votre temps le matin à supprimer des lettres, tous les messages dont vous n'avez rien à faire. Donc c'est bien par rapport à la perspective actionnelle que vous décidez, cette communication, je la supprime, ou cette communication, je la prends. Hein. On est passé clairement du paradigme de la communication au paradigme de l'action. Berthoz y a fait allusion le premier jour au paradigme de la communication, lorsqu'il a dit qu'à un certain moment, et je connaissais aussi la chose, les psychiatres sont allés chercher dans les lacunes de communication de la mère, ils sont allés chercher là les raisons de l'autisme. Bonjour la culpabilisation. Et bonjour l'erreur historique, parce que maintenant ce qu'on cherche, parce qu'on est dans un paradigme différent, on cherche les gènes de l'autisme, et non pas les défauts de communication. Il y a une époque où dans les entreprises, quand ça marchait mal, on faisait venir un gourou de la communication. Le problème maintenant n'est plus de développer la communication, mais de la limiter justement au strict minimum par rapport à l'action, par rapport à l'efficacité de l'action. Donc c'est ça tout le passage de l'auto au co. Regardez le groupe de référence de l'approche communicative, c'est le groupe de deux. C'est un groupe quand même, hein, parce qu'on ne peut pas communiquer tout seul. Sauf si vous êtes Sarkozy le matin devant votre glace en vous rasant. Généralement, on ne communique pas tout seul. Il faut être au moins deux. Donc malheureusement, voilà. Donc on va se limiter au groupe qui démultiplie au maximum les circuits de communication dans la classe. Hein. Et ce que l'on voit dans les manuels de français langue étrangère, mais dans d'autres langues étrangères aussi, mais surtout de français langue étrangère, depuis 2004-2005, eh bien on voit un tas de consignes qui ne commencent plus par en groupe de deux, mais la classe entière, en groupe de quatre, en groupe de cinq. Voilà. Le passage de l'auto au co. Il y a un rebasculement extrêmement fort de la logique individualiste de l'approche communicative. Regardez le concept dans l'approche communicative pour parler de culture. Vous n'avez qu'un seul concept depuis 30 ans. Stratégie individuelle d'apprentissage. Et quand vous pensez que l'enjeu, quand vous rentrez dans une classe, le premier enjeu par rapport à l'action commune d'enseignement-apprentissage que vous allez ensuite gérer, c'est de créer le plus rapidement possible une stratégie commune d'enseignement-apprentissage. C'est ça l'enjeu principal. Et ensuite, les réglages par rapport aux stratégies individuelles vont venir après. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. Mais l'enjeu premier, c'est bien la stratégie collective d'enseignement-apprentissage. La mise au point d'une culture commune d'enseignement-apprentissage. Et dans l'environnement des entreprises, où l'enjeu, c'est pas seulement de vivre harmonieusement ensemble, mais de travailler efficacement ensemble, il y a longtemps qu'on a inventé, qu'on a pris conscience de l'importance de la culture d'entreprise. Donc voilà, le premier enjeu d'un enseignant lorsqu'il rentre avec un nouveau groupe, c'est comment créer une culture collective d'enseignement-apprentissage. Et on voit très bien que, avec l'expérience, on le fait, peut-être inconsciemment. Et on voit très bien que d'un groupe d'étudiants à l'autre, très rapidement, c'est pas la même culture. On n'a pas la même façon de faire, et ils n'ont pas non plus la même façon de faire. Il y a une sorte de réglage commun qui s'est fait. Bon, hétéroco. Ouf. Un plusieurs. Combien de temps il me reste,
7 minutes.
7 minutes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Un plusieurs. Je passe très rapidement, c'est tout ce qu'il y a maintenant sur le passage dans le cadre européen commun de référence, hein, le passage de la focalisation sur l'apprentissage d'une seule langue culture à l'apprentissage de plusieurs langues cultures, ou à la gestion de ce qu'on appelle le plurilinguisme et le pluriculturalisme. Hein. Le passage de l'un au plusieurs, c'est vraiment un très gros passage, hein, que l'on a vu s'opérer en didactique des langues depuis quelque temps. Hein. Compétences plurilingues et pluriculturelles, ou plurilingues et interculturelles, parce que certains retirent du côté communicatif. Hein. Compétences plurilingues et pluriculturelles dans le cadre. Regardez aussi le nombre d'interventions dans ce colloque qui portait sur le plurilinguisme et le pluriculturalisme. Et j'allais dire, regardez l'orientation même de l'UPGES en tant que telle, qui joue fondamentalement sur la richesse des langues différentes, des contextes d'apprentissage différents, dans des cultures scolaires, dans des cultures d'écoles supérieures différentes. Vous voyez un peu l'attirance que vous avez et la volonté d'utiliser le pluri comme une richesse pour l'action. Hein. Là aussi, l'UPGES et le colloque sont tout à fait dans la ligne. Hein. Le passage de l'apprentissage à la formation, j'essaie de revenir à mes moutons ici. Il ne s'agit pas seulement de l'apprentissage d'une langue et d'une culture étrangère, mais de la formation, je l'utilise ici, je l'ai mis entre guillemets, parce que je n'arrive pas à trouver un concept où on retrouve à la fois la notion d'éducation quand on parle de l'éducation interculturelle, la notion de développement quand on parle de développement personnel, le travail sur l'identité, le travail sur la corporéité, qui est un travail qui dépasse très largement le travail sur la langue, quoi. Il est clair que aussi à l'UPGES et dans ce colloque, vous avez pris conscience que le travail, l'apprentissage d'une langue culture n'est pas seulement l'apprentissage d'une langue culture, et qu'il y a non seulement bien d'autres choses qui sont mises en jeu, mais que le travail d'apprentissage et d'enseignement de la langue culture est une approche particulière pour travailler de façon peut-être efficace, parce que d'une façon différente, justement sur ces thématiques de type éducative et formative. Voilà. La société classe, société extérieure, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête en termes de trois enjeux différents, en termes de représentation de l'espace dans lequel vous travaillez. Ça peut être ce que j'appelle la société classe, c'est-à-dire vous avec vos élèves dans l'espace de la classe, ou virtuellement, bien sûr, quand vous communiquez avec eux, mais c'est vous et vos élèves, d'accord ? Il y a toute une partie de l'enjeu du travail d'un enseignant qui se passe par rapport à cet espace commun d'enseignement-apprentissage. Et puis, vous êtes forcément obligé de tenir compte aussi de l'espace de l'école en général, c'est-à-dire de l'enseignement-apprentissage des autres disciplines scientifiques. On voit très bien dans ce colloque, par exemple, qu'il y a le travail sur à la fois la langue et les études universitaires. Tout le travail sur la langue au service de la langue comme instrument d'études universitaires. Et donc là, vous sortez de l'espace d'enseignement-apprentissage de la langue où vous y incluez l'espace de l'enseignement-apprentissage des disciplines scientifiques, en l'occurrence, de l'étudiant. Et puis vous avez un troisième espace qui est l'espace professionnel. L'espace de là où vous vous représentez, vous imaginez ou vous concevez que vos étudiants seront plus tard lors de leur profession. Et là, c'est une grosse surprise que j'ai eue, c'est qu'en général, cet espace professionnel n'est pas très pris en compte en tout cas dans ce colloque de l'UPLEGES. Comme si en fait vous étiez beaucoup plus focalisé sur les enjeux en synchronie des études scientifiques. Et il y a une sorte de découplage assez caractéristique, me semble-t-il, assez net, par rapport à la projection d'un autre espace qui se situe parfois, il y a parfois des intersections, comme on dit en théorie des ensembles, c'est-à-dire l'organisation d'un stage, la préparation d'un stage sur le terrain à l'intérieur du travail d'une étude, par exemple, c'est un cas où il y a intersection entre l'espace professionnel et l'espace étudiant, on va dire. Hein, d'accord ? Mais en général, quand même, il y a peu de prise en compte de l'espace professionnel. Et ça me semble devoir être lié avec le peu de prise en compte relatif de la perspective actionnelle. Parce que la perspective actionnelle, quelle est l'action que l'on prend en compte ? Bien entendu, l'action d'enseignement-apprentissage. Bien entendu, dans une grande école, l'action d'enseignement-apprentissage et des autres disciplines scientifiques à côté, mais aussi l'action future du travailler ensemble dans les entreprises plus tard. D'accord ? Regardez par exemple, alors ça par exemple, mettre en avant l'espace futur professionnel, ça veut dire que le dispositif de référence du point de vue didactique, c'est la pédagogie du projet. C'est la pédagogie du projet parce que les entreprises travaillent par projet. Et qu'une classe de langue elle-même, on peut le dire, et ce n'est pas seulement une métaphore, lorsque vous entrez dans une classe de langue avec vos nouveaux étudiants, vous allez entreprendre quelque chose avec eux. Un cours de langue est une entreprise. Une entreprise qui doit créer de la valeur. Je vais filer la métaphore, mais encore une fois, ce n'est pas seulement de la métaphore. La valeur, en l'occurrence, c'est le processus d'apprentissage. Il y a un gain en termes d'apprentissage. Une entreprise collective avec un gain en termes d'apprentissage. Et tout ce qui va avec. Je veux dire, il y a une homologie entre les enjeux de l'espace de la classe et les enjeux futurs de l'espace de travail dans une entreprise. Très clairement. Et cette homologie-là, c'est justement celle qui est spécifiquement travaillée par la perspective actionnelle. Communication-action. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? J'en ai parlé déjà parce que je vous ai parlé du passage du paradigme de la communication au paradigme de l'action. Je dois vous renvoyer, si j'ai bien fait les choses. Ah, voilà. Bon, dans le cadre européen commun de référence, vous avez l'enjeu nouveau du vivre ensemble, et non plus seulement de rencontrer ponctuellement des gens dans le cadre de voyages touristiques, ce qui était le cas des niveaux seuils, qui était le grand texte antérieur du Conseil de l'Europe au début des années 70, c'était les niveaux seuils, threshold level, nivel umbral, etc. Non ? Et là, très clairement, la macro-situation de référence qui avait été choisie par tous les auteurs pour, à partir de cette macro-situation de référence, voir les micro-situations de communication qui permettaient d'induire les actes de parole et les notions à mobiliser dans ces micro-situations de communication. Vous voyez l'importance de la macro-situation de référence, c'était le voyage touristique. Et dans le voyage touristique, eh bien, vous rencontrez pour la première fois, un coatif, des gens que vous allez quitter très vite, ponctuels, et que vous allez quitter définitivement perspectif. D'accord ? Et vous voyez que les enjeux en termes actionnels sont tout à fait différents. Hein. Les enjeux de la communication lorsque vous rencontrez ponctuellement des étrangers de passage et les enjeux de la communication lorsque vous travaillez en permanence avec des gens. Je vous donne un exemple concret. On apprend aux élèves, aux étudiants à dire bonjour, suivant les différents statuts. Hola, buenos días, saludos. Le problème lorsqu'on travaille dans une entreprise depuis 30 ans ou 40 ans, c'est on apprend à saluer pour la première fois dans les manuels communicatifs. Mais on n'apprend pas à saluer pour la deuxième, troisième ou quatrième ou cinquième fois dans la journée parce que c'est votre compagnon de travail. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la cinquième fois dans un couloir, est-ce que vous le saluez de la même manière qu'au départ ? Il va vous dire « mais il se fout de ma gueule ou quoi là ?» On s'est vu déjà. Et pourtant, vous allez saluer. C'est là que le non-verbal, sans doute, va jouer un rôle extrême. Mais on travaille sur l'incoatif dans le communicatif. On ne travaille pas sur la durée. On loue, dans les manuels communicatifs, on loue énormément plus de chambres d'hôtel que d'appartements. Vous avez remarqué. On est vraiment sur l'ADN du voyage touristique. Hein. C'est caractéristiques incoatives, ponctuelles, perfectives. Une classe de langue, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est exactement le contraire. C'est du répétitif, c'est du duratif, c'est de l'ouverture. Regardez comment vous terminez un cours en ouvrant déjà sur le cours antérieur, comment vous commencez un cours en ouvrant sur le cours antérieur. Vous voyez là comment on se situe en fait dans un processus. Un prof de langue expérimenté, il marque sans arrêt le fait qu'on est dans un processus. C'est un des problèmes dans les manuels actuellement, comment implémenter la perspective actionnelle dans les manuels. C'est qu'il y a une tradition séculaire des manuels, c'est que les unités didactiques, ce sont des unités. Vous avez remarqué ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini une unité, c'est fini, on passe à une autre unité. Voilà. Or, par exemple, lorsque vous vous situez dans la pédagogie de projet, une pédagogie de projet, ça ne peut pas se faire dans le temps d'une unité didactique. Il faut forcément que ça dépasse. Donc vous avez un problème de gestion, de temps, de durée, le passage du ponctuel au duratif. Si vous changez ce gène d'une orientation didactique, ça vous produit des modifications absolument constantes. Ouais. Alors, on arrive à la fin. L'agir ensemble, c'est ça. Et donc voilà comment je synthétise, si vous voulez, comment je vois du point de vue didactique quels sont, je laisserai mon PowerPoint si vous voulez ensuite le voir, hein. Voilà quels sont actuellement, comment est-ce que vous vous situez par rapport à, on va dire, la méthodologie, parce que je n'ai pas entendu parler j'ai pas entendu le mot approche communicative, mais je n'ai pas assisté à tout, par exemple. J'ai pas entendu parler de perspective actionnelle, j'ai pas entendu parler d'approche par les tâches. Très bizarrement, si vous voulez, il y a une sorte de point aveugle qui s'est fait sur ce qui était l'essence même de la réflexion didactique pendant très longtemps, qui était les macro-cohérences méthodologiques. Voilà, ce serait à analyser aussi. Hein. Et je pense que ça fait partie du cœur du métier aussi, ça. Quelque part, c'est incontournable d'avoir une représentation d'ensemble en termes de méthodologie de référence. Le problème, c'est qu'on est dans la complexité. On est dans la complexité et qu'on est actuellement en termes de macro-cohérence méthodologique, vous voyez, il y a de l'approche communicative, il n'est pas question de la jeter, elle a sa pertinence. Il y a ce qu'on appelle les didactiques du plurilinguisme et il y a la perspective actionnelle. Vous voyez, j'ai entendu le terme d'interculturel ici, mais je n'ai pas entendu le terme. Vous allez dire, ah, c'est parce que c'est lui qui a créé le terme ou qui l'a lancé, qu'il aurait bien voulu. Non, pas du tout. Le terme de co-culturel. Culture d'entreprise ou culture commune d'enseignement-apprentissage dans une classe. Voilà. L'interculturel renvoie à la société extérieure. Hein? Il y a la société extérieure avec sa propre culture, la culture américaine, la culture anglaise. Il y a la société classe, il y a la société de l'école dans laquelle travaillent vos étudiants, et il y a les sociétés, en jouant sur les mots, les entreprises dans lesquelles ils vont travailler plus tard. Comment vous vous situez par rapport à ces différents espaces qui viennent interférer en permanence entre elles. Voilà. Et puis ça passe très mal quand j'en présente ça dans les milieux anglo-saxons. La conception de la société à la française est une conception actionnelle. Donc une société n'est pas une coexistence harmonieuse de communautés, mais c'est un ensemble de citoyens égaux qui partagent le même projet de société. Et là, ça coince énormément. Hein. Ça coince énormément. Voilà, donc paradigme de la communication, mais ça vous l'aurez sur mon PowerPoint, c'est-à-dire un certain nombre de quelques extraits de mes œuvres complètes. Depuis 2000, depuis la publication du cadre européen, j'ai dû publier une trentaine d'articles qui sont tous disponibles sur mon site concernant justement le paradigme de l'action. Alors, la dernière fois que j'étais invité à l'UPGES, c'était en 1998 et c'était à Saint-Étienne, hein, il y a juste 15 ans. Donc on a pris un bon rythme. Et j'ai déjà noté qu'en 2028, je viens au prochain colloque de l'UPGES. Voilà ce que j'écrivais, ce que je disais en 1998. C'est la publication de la deuxième édition provisoire du cadre européen qui va être publiée en 2000. Mais je crois avoir déjà senti d'où venait le vent, si vous voulez. Les langues vivantes comme outil de formation des cadres. La classe de langue est un espace de travail en commun, mais où on est pendant très peu de temps, qu'on a un enjeu très précis, et donc il y a une sorte d'intensification des enjeux actionnels. Considérez la classe de langue comme un incubateur de compétences professionnelles. Et se réclamer se réclamer, en tant que professeur de langue, se réclamer d'être un formateur à la professionnalité, et non pas seulement un enseignant d'une langue de communication qui sera utilisée plus tard dans le milieu de travail de l'étudiant. Il me semble que c'est une entrée puissante. Je ne sais pas si ça va marcher auprès de votre administration, hein, si vous arrivez à les convaincre, mais vous y travaillez, oui. Donc voilà comment je me référais à l'ouvrage de Simonet, Les stratèges de l'éphémère, un très joli titre, qui venait d'être publié justement lorsque j'ai fait cette conférence. Hein. Il présentait justement les logiques en émergence, hein, l'entreprise complexe. L'entreprise moderne est une entreprise qui prend en compte la complexité. Ben justement, dans l'apprentissage des langues, on travaille sur la complexité. Par exemple, on travaille sur l'interlangue, qui est un processus hautement complexe. On fait réfléchir les élèves sur les représentations qu'ils ont, hein, à chaque moment, de comment ils perçoivent le fonctionnement de la langue. On travaille sur l'apprendre à apprendre, toutes les activités métacognitives. Et c'était très à la mode à l'époque, je ne sais pas si ça l'est toujours, à l'époque, en 1998, le thème de l'entreprise apprenante, mais qui est reprise maintenant aussi par Luc Légès. Hein. Et dans l'enseignement des langues, justement, eh bien, il y a toute une série d'exigences fondamentales. C'est ce que vous faites, hein. Vous lisez en diagonale, et puis je laisserai de toute façon le diaporama. Voilà une série d'exigences fondamentales qui sont en relation directe avec des attitudes, des comportements, des valeurs que l'on va leur demander ensuite dans l'entreprise. Mais ils pourront les tester et s'y entraîner dans une situation d'accompagnement et de sécurité qu'ils n'auront plus tard. Donc incubateur, mais en même temps sécurisation, c'est le rôle de l'incubateur d'ailleurs, de faire que ça aille plus vite, mais que ce soit en même temps sécurisé. Voilà, bon, alors je termine juste, je vous renvoie à mon site, où il y a deux cours déjà en ligne, la didactique des langues culture. J'ouvre le dernier thème qui était celui de la recherche que tu m'avais demandé d'aborder. La didactique des langues culture comme domaine de recherche, vous avez à cette adresse-là, mais vous tapez Puren dans Google et vous tombez sur mon site, en haut de la page, je suis très content. Avant une entreprise de chimie allemande, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Puren. Il y a une vingtaine de pages pour chaque chapitre avec des activités qui sont auto-corrigées. Donc vous pouvez vous auto-former à la didactique des langues comme domaine de recherche. Vous avez un cours qui est presque terminé, il manque le numéro 5, le plus important, mais le plus difficile et le plus complexe, méthodologie de la recherche en didactique des langues culture. Si vous voulez, ça peut vous donner des idées lorsque vous voulez vous-même commencer à faire des expérientiations ou expérimentations, on va y arriver. Et puis un cours qui doit apparaître prochainement, incessamment, sous peu, mais il faut que je prenne le temps, l'écriture de recherche en didactique des langues culture. Voilà, on me demande souvent de faire des formations à l'écriture. Comment écrire un article? Voilà. Question, c'est pas à 1000 euros, c'est à 100 000 euros ça. Et puis, je vous renvoie aussi à ce modèle, donc je vous laisserai mon PowerPoint, le modèle que j'ai créé. Peut-être qu'il existe avant moi, hein. À chaque fois qu'on a une bonne idée, il se trouve que ça avait déjà été trouvé avant. Hein. Comment justement, lorsque vous faites une expérience dans vos classes, comment vous situez par rapport à ce qu'est une recherche, hein. Quelle est la nature de votre recherche? Parce qu'en fonction de la nature de votre recherche, il y a aussi ce que vous pourrez en attendre en termes de valorisation ensuite, en termes de carrière. Okay, je n'ai pas vu ici, par exemple, dans les interventions que j'ai vues, je n'ai pas vu poser d'hypothèse. Je n'ai pas vu poser de postulat ni de prémisse. Je n'ai pas vu poser de questions de recherche. J'ai vu directement, peut-être qu'il y en avait par derrière, mais en tout cas, ça n'a pas été présenté. Je n'ai pas vu non plus de dispositif de type expérimental avec des groupes témoins. J'ai fait ça dans mes classes, ça a marché super. Ouais, mais si j'avais fait le contraire, est-ce que ça aurait marché aussi bien? Auquel cas, bon, vous comprenez que le résultat de la recherche a un sens tout à fait différent. D'accord? Donc je pense, et je termine par peut-être les deux dernières idées que je voulais lancer. Je sais que vous êtes actuellement sur la question de s'impliquer dans des recherches-actions. Ça me paraît très bien. C'est vraiment un des positionnements idéaux par rapport à un enseignant qui veut se former en même temps à la recherche en étant accompagné par des chercheurs universitaires. Rien à redire. Il faut savoir que c'est un dispositif lourd, un dispositif qui demande un long investissement. Et donc une première idée que je proposerai à Luc Légès, c'est il y a des conseils scientifiques qui sélectionnent les thèmes abordés, les propositions abordées dans un colloque. Il existe aussi un conseil scientifique de la revue. qui sélectionne, qui oriente les thématiques de la revue. Pourquoi pas un comité recherche qui serait constitué de gens de l'UPLEGES qui se sentent compétents et puis aussi de chercheurs extérieurs, qui seraient là en tant que consultants. Vous avez envie de lancer une recherche, vous la présentez, on vous dit tout de suite, ça se situe de telle ou telle manière, il faudrait peut-être que vous pensiez à faire ceci, à faire cela, vous pouvez en attendre ceci, cela, d'accord ? Et qui en même temps puisse être un lieu de mise en rapport, en relation de gens qui veulent expérimenter, expériencier des choses dans leur classe. C'est quelque chose aussi d'important, d'accord ? À condition qu'on se situe bien dans les différents enjeux possibles des différents types de recherche. Et puis peut-être une autre idée, réserver une partie de tous les colloques en extra-thématique à une présentation de recherche qui aurait justement gagné le concours des meilleures recherches présentées pendant l'année par l'UPLEGES. Voilà, un espace de présentation de recherche en tant que tel. Voilà, merci, j'étais un petit peu long.